Voilà, d'accord.
Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter, vous le connaissez déjà, Pierre Chila, qui vous parler d'une tragédie qui s'est passée il y a un certain nombre de décennies.
100 ans.
100 ans, juste. Le naufrage du général Chanzy à Marseille. Je lui passe la parole.
Voilà, alors ce n'est pas une communication très, très agréable puisqu'il s'agit d'un naufrage et d'une catastrophe. Peut-être que certains ont eu peur que la catastrophe se produise trop tôt. En tout cas, voilà comment a été annoncée la chose le 11 février 1910. Transatlantique général Chanzy, échoué, nord Minorque, tout perdu, équipage et navire, un seul passager sauvé. Le 11 février 1910, vers 17h, laconique et terrible, la dépêche toucha au même moment les autorités d'Alger et celles de Marseille, parce que le général Chanzy était un bateau qui était chargé de faire la liaison Marseille-Alger et retour. Et il appartenait à la compagnie générale transatlantique qui était donc propriétaire du paquebot. Bientôt, une seconde dépêche confirma la catastrophe. En pleine tempête, le vapeur s'était fracassé à grande vitesse sur les rochers de la côte nord-ouest de l'île de Minorque et avait sombré en quelques minutes. Immédiatement, la presse marseillaise, comme d'ailleurs la presse nationale, car la tragédie a été répercutée au niveau national et même international, il y a des journaux américains qui en ont parlé. Donc la presse marseillaise s'est fait l'écho de la catastrophe dès le 12 février 1910 et n'a plus cessé pendant plusieurs semaines de tenir jour à jour au courant de ses lecteurs de tous les détails de la tragédie, mais aussi de ses suites, informant et parfois prenant la responsabilité des multiples manifestations de secours aux familles et aux victimes qui se sont organisées non seulement dans la ville, mais dans la région et même au-delà, dans la nation. Ainsi, le petit Marseillais du 12 février, qui avait choisi de parler sur deux colonnes dans sa une de la sécurité en mer, ben, c'est mal tombé pour lui parce que dans les pages intérieures, il a été obligé d'annoncer en dernière heure, évidemment, le désastre avec l'image du paquebot Chanzy que vous voyez ici, le général Chanzy perdu corps et bien, plus de 150 victimes, ce qui était vrai, il y en a eu 156. Il est parti mercredi après-midi pour Alger, naufrage, un seul rescapé, et évidemment, parler de l'émotion à Marseille. Alors, cet article, vous ne le voyez pas ici parce que j'ai coupé le haut pour que ça cadre mieux, mais ça s'appelait « Terrible catastrophe maritime ». Et donc, il recensait les derniers naufrages ayant frappé Marseille, parce que Marseille étant le premier port de Méditerranée depuis des siècles, je vous passe en silence les multiples naufrages qu'il y a pu y avoir quand on passe en revue tous les bateaux qui ont été lancés à Marseille et qu'on les laisse vivre pendant 10, 15, 20, 25 ans. Eh bien, très souvent, ça se finit non pas à la casse, mais par une disparition plus ou moins tragique. Et c'est ce qui s'est passé, sauf que là, c'était particulièrement grave étant donné le nombre de victimes. Et donc, dans le recensement que faisait le petit Marseillais, il remontait simplement à quelques mois précédents, novembre 1909, il y avait eu un bateau qui s'appelait le Neustria, qui appartenait à la compagnie Cyprien Fabre, qui s'était perdu sur le chemin, non pas en Méditerranée, celui-là, mais sur le chemin d'Amérique, partant de Marseille, mais pour l'Amérique. Et il était simplement chargé d'un équipage, il n'y avait pas de passagers, il y avait 40 victimes quand même dans l'équipage. Également, dans les mois qui ont précédé, la drague numéro 1, elle partait pour Dakar, 21 victimes d'équipage. Et tout le monde avait encore en tête, on était en 1910, la tragédie du Liban qui avait eu lieu en 1903, une tragédie qui s'était passée en plus à l'entrée du port de Marseille, où le Liban avait coulé avec 100 à 150 victimes, c'est-à-dire une masse de victimes pratiquement comparable à celle du général Chanzy. Alors, il y avait d'autres articles, évidemment, qui présentaient la carte de la Méditerranée, le tracé de la ligne Marseille-Alger, qui donnait la liste des passagers, car tout le monde voulait savoir, évidemment, s'ils figuraient parmi les disparus ou pas, les 70 membres d'équipage. Dans les membres d'équipage, d'ailleurs, il y avait deux femmes qui faisaient partie de l'équipage, mais en tant que femmes de chambre. Et donc, la Compagnie Générale Transatlantique a fourni cette liste en annonçant déjà ce qui a réglé toutes les, tous les questionnements qu'il n'y avait qu'un seul survivant et axant sa communication sur les disparus dont la mort pouvait dire quelque chose au lecteur, et en particulier sur une dizaine d'artistes, chanteurs de music-hall, jongleurs, équilibristes, qui faisaient partie du voyage et qui ont disparu. L'émotion a été grande sur Marseille, mais elle a été également très grande à Alger, où on avait attendu le bateau sans le voir arriver, en comprenant qu'il allait se passer quelque chose de tragique. Alors, voilà maintenant le bateau tel qu'il est sur des cartes postales entre 1890 et 1910, c'est-à-dire au moment de sa disparition. Là, il est en 1905. Vous le voyez à l'entrée du port devant la cathédrale. C'est une carte postale, de nombreuses cartes postales. D'ailleurs, on reprenait la photo du Chanzy. C'est un bateau qui avait été construit en 1891. Donc, ça lui faisait quand même 20 ans d'existence, ce qui n'est pas énorme pour un bateau, à condition qu'il soit solide. Il avait été construit à Saint-Nazaire, puisque c'est là qu'il y avait à Penouette les chantiers de la Transat. Et il avait été livré en 1892. En 1910, donc, tel qu'il avait été réparé à plusieurs reprises, réhabilité, comme on dirait peut-être aujourd'hui pour les immeubles, il faisait 109 mètres de long, 11 mètres de large, 2334 tonneaux de jauge brute. C'était un des 74 navires en service appartenant à la Compagnie Générale Transatlantique. Et l'un des 5 de la Compagnie Générale Transatlantique qui était chargé de faire la ligne Marseille-Alger et retour, à une vitesse qui était pour l'époque réputée assez importante, même s'il y avait des bateaux quelque peu plus modernes, une vitesse de 17 nœuds à peu près à l'heure, ce qui était déjà pas mal. Alors, ce bateau, il avait un passé, donc, il avait d'abord été consacré dès sa lancée à la ligne Marseille-Alger en 1892, puis on l'avait mis comme bateau de croisière sur la Norvège et la Suède, où il avait eu d'ailleurs un premier accident, il s'était échoué, mais il n'y avait pas eu de victime. On l'avait renfloué, il avait repris son service, on l'avait remis sur la ligne Marseille-Alger, et finalement, en 1902-1903, étant donné que ça lui faisait une douzaine d'années d'existence, il avait eu une réforme générale, avait des chaudières neuves, on l'avait modernisé, on avait installé une passerelle supplémentaire sur le pont, un rouf à l'arrière du bateau, et donc, malgré son âge, il était réputé tout à fait solide. Parmi les 5 bateaux de la Transat qui faisaient la ligne Marseille-Alger, 3 autres avaient à peu près le même âge et à peu près la même disposition. Il n'y en a qu'un seul qui était plus récent et plus moderne, c'était en 1907, qui s'appelait le Charleroi. C'est pas par hasard, c'est parce que le président de la Compagnie Générale Transatlantique, c'était le fameux Jules Charleroi. Et donc, il avait donné son nom à un bateau qui, lui, était un bateau plus moderne, puisque datant de 1907, avec la télégraphie à bord, ce qui aurait permis évidemment d'annoncer tout de suite les catastrophes qui se préparaient, et une turbine. Et ce Charleroi avait une vitesse supérieure au général Chanzy. Il faisait le Marseille-Alger en un peu plus de 20 heures, 21 heures si vous voulez, au lieu de 25-26 heures en moyenne qu'on faisait jusque-là. Voilà pour la présentation du bateau. Maintenant, 2 mots sur la Compagnie Générale Transatlantique. Tout le monde, évidemment, en a entendu parler. La Transat avait succédé en 1861 à la Compagnie Générale Maritime qui avait été fondée quelques années plus tôt par les frères Pereire, les fameux frères Pereire qui s'étaient investis dans l'urbanisation de Marseille. Elle s'était d'abord consacrée, comme son nom l'indique, Compagnie Générale Transatlantique, à des transports à travers l'Atlantique jusqu'en Amérique. Et puis à partir de 1878-1879, elle avait ouvert des lignes à partir de Marseille, toujours vers l'Amérique, mais surtout à travers la Méditerranée et principalement vers l'Afrique du Nord et encore plus vers l'Algérie. Alors, pour assurer ces lignes et avoir des revenus en quelque sorte qui sécurisaient le rendement, elle avait obtenu dès 1880 la concession des services maritimes postaux subventionnés entre Marseille et l'Algérie. et entre Marseille et la Tunisie, Marseille et le Maroc, Marseille et la Tripolitaine, Malte, Carthagène, la Corse. Et ces concessions avaient été plusieurs fois renouvelées par la suite. C'était devenu, de toute façon, soit par son trafic atlantique, soit par son trafic méditerranéen, la plus importante compagnie française de navigation. Son siège était à Paris, et donc c'était le Marseillais Jules Charleroux qui se trouvait à sa tête, qui au moment de la catastrophe n'était pas là, il se trouvait en Égypte. C'était une personnalité, vous le savez tous, d'envergure nationale, j'allais presque dire internationale. Fils de Savonnier, Savonnier lui-même, il était devenu administrateur du comptoir national d'escompte, de la Land Bank d'Égypte. Il avait été député pendant de longues années, député des Bouches-du-Rhône, de 1889 à 1897, puis comme président de la compagnie Fraissinet, encore une des grandes compagnies maritimes marseillaises, et puis finalement, à partir de 1904, président de la compagnie générale transatlantique, dont il avait fait la réorganisation, en particulier, pas vraiment à Marseille, où c'était déjà tout en place, mais sur le Havre. Je vous rappelle également qu'en 1906, lorsqu'il y avait eu la première exposition coloniale, elle avait été placée, en quelque sorte, sous la responsabilité de Jules Charleroux, qui en était le commissaire général. Et je vous signale enfin que malgré la tragédie du général Chanzy qui avait frappé sa compagnie, la même année, en 1910, il a été élu président du comité central des armateurs de France. Donc c'était un personnage, évidemment, de haute qualité. Le voilà ici, vous voyez le dandy négociant, savonnier industriel, armateur, organisateur de pointure nationale qui était Jules Charleroux. Alors, au moment de la catastrophe, la flotte, je vous l'ai dit, de la Transat comprenait 74 navires, dont une partie desservait des lignes de passagers, mais aussi des lignes de transport et de transport de courrier, comme je vous l'ai dit, vers Alger, 5 départs rapides par semaine, vers Tunis, Oran, Carthagène, Bonne, Philippeville, Malte, Bougie. Voilà, dans les journaux de l'époque, le parcours et les différentes étapes que faisaient les services de la compagnie générale transatlantique à l'époque. Vous voyez que c'était quelque chose de très, très bien organisé, avec des voyages fréquents et rapides. Cette rapidité, je vous l'ai dit, c'était autour de 20 heures à peu près pour rejoindre Alger. Alors deux mots, puisqu'on y est, sur le nom de général Chanzy, puisque c'est pas un homme qui a subi la catastrophe, mais c'est le bateau qui portait son nom. Eh bien, le général Chanzy portait le nom du général Alfred Chanzy, 1823-1883, qui s'était en particulier, ça dira quelque chose sans doute à certains d'entre vous, illustré pendant la guerre de 1870 à l'armée de la Loire. C'est un de ceux qui avait le mieux résisté, j'allais dire, à l'invasion allemande. Et entre 1873 et 1879, il était devenu gouverneur de l'Algérie. Et c'est en mémoire, donc, de ce qu'il avait été gouverneur de l'Algérie, qu'on avait donné son nom à un bateau qui faisait la ligne, bien entendu, Marseille-Alger. Alors, sa silhouette était familière aux Marseillais. Vous avez vu tout à l'heure déjà une carte postale de l'époque qu'il représentait. En voilà une autre ici, où on le voit encore en train de quitter le port de Marseille, puisque vous voyez le bâtiment du Pharo sur le côté. En voilà encore une autre. Là, ce n'est pas une carte postale, c'est tiré d'une revue de l'époque, lorsqu'il a disparu, la revue nationale qui s'appelait Je sais tout, qui était une revue très, très connue à l'époque, a publié elle aussi sa photo. Vous voyez, le 10 février, le paquebot général Chanzy, commandant Caillol, parti de Marseille pour Alger, a été jeté par la tempête sur les rochers de Minorque. Tout l'équipage a péri, etc. Tous les passagers ont été noyés, parmi lesquels, et on revoit ce qu'on va voir en détail tout à l'heure, en vedette, c'est le cas de le dire, les artistes qu'il avait à son bord. Voilà la photographie de son capitaine, qui était le capitaine Caillol. Il était à la tête du Chanzy depuis un an. C'était un marin très expérimenté qui avait une cinquantaine d'années. moyennant quoi la presse le traitait de vieux loup de mer, pour dire qu'il était très capable, il n'était pas si vieux que ça, mais en tout cas, c'était un habitué de la ligne, car s'il n'était capitaine du Chanzy que depuis un an, depuis 10 ans, il avait commandé sur la même ligne un des autres paquebots de la Transat qui s'appelait le maréchal Buzot. Vous voyez là encore, un bateau qui portait le nom, bien entendu, d'un des généraux qui s'était illustré en Algérie. Et Cayol, donc, capitaine expérimenté, dont on n'a jamais mis en doute d'ailleurs les capacités, était résidé à Marseille avec sa femme et sa fille. Alors, confirmation du naufrage, eh bien, le général Chanzy, lorsqu'il était parti de la Joliette, était parti par gros temps, pas très courageux. Il y a même des gens qui s'étaient demandé s'il fallait prendre la mer par un temps aussi agité. Il était parti le 9 février 1910, à 13h. On l'attendait à Alger le lendemain dans l'après-midi, aux environs de 15h, comme c'était l'habitude. En fait, est-ce qu'on attendait vraiment le Chanzy? Jusqu'au dernier moment, lorsque j'ai vu la liste dans la presse des départs de bateaux, ce jour-là, ce n'est pas le général Chanzy qui aurait dû partir, mais le maréchal Buzot. C'est un autre bateau. Peut-être l'histoire en aurait été changée ou pas. En tout cas, c'est le Chanzy qui est parti et qui a coulé. Alors, en attendant, sans savoir, à Alger, ben, on a d'abord patienté, puis on s'est inquiété. On pensait que ce n'était pas probablement une catastrophe, qu'il avait été probablement retardé par la tempête, ce qui se faisait souvent en cas de forte tempête, ce qui était assez fréquent dans les environs des Baléares, c'est qu'avant d'arriver sur les Baléares, pour se mettre à l'abri de la tempête, on longeait les côtes, on se rapprochait de l'Espagne, quitte à attendre un bon moment favorable pour revenir sur le circuit. Et donc on a pensé que c'est ce qui avait été fait par le capitaine de Cayeux. Cependant, il y en a un certain nombre plus pessimistes qui rappelaient que les abords de Minorque étaient très dangereux. Vous allez voir pourquoi. Ici, ça ne vous donne pas l'idée vraiment du danger, mais c'est la côte nord de Minorque. Oui, mais ben voilà.
Vous avez le phare et cette anfractuosité, c'est là que le Chanzy va.
Voilà, donc c'est une côte rocheuse escarpée. Vous allez le revoir. Les photos ont été prises sur place, d'ailleurs, en février 2010, c'est-à-dire pour le centenaire, où la ville de Ciudadel, qui est la ville la plus proche de la catastrophe, a organisé des commémorations pendant plusieurs jours, parce qu'eux se souviennent qu'il y a 100 ans, il y avait eu cette catastrophe-là. Et donc, voilà le genre de rocher qu'il y a et contre lesquels s'est précipité le général Chanzy. Vous voyez au fond d'ailleurs un phare, qui est le phare moderne qu'on a construit après avoir détruit celui qui était en place au moment de la catastrophe, parce qu'on a dit que le phare n'éclairait rien, et donc un des apports de la catastrophe, ça a été qu'on a amélioré les choses à cette époque-là. Donc, c'était pas la première fois qu'il y avait des ennuis à proximité de cette zone nord de Minorque. En 1898, le Ville de Rome, qui était déjà un bateau de la compagnie générale transatlantique, avait fait naufrage dans la région, et simplement les 117 passagers et hommes d'équipage avaient pu être sauvés, alors que le bateau lui avait été perdu, donc on n'avait pas pu récupérer quand même le bateau. Et le 26 avril 1906, donc c'était quand même plus récent, l'Isaac Pereyr, voyez réapparaître le nom des Pereyr, puisque c'était quelque part les fondateurs de la compagnie, de la future compagnie générale transatlantique, l'Isaac Pereyr s'était échoué lui aussi, non pas sur la côte nord-ouest, là on est plutôt du côté de la côte nord-est, mais du côté de la côte nord-est de Minorque. Et là encore, il y avait 123 passagers, donc ça aurait pu être une catastrophe comparable, mais l'équipage et les passagers avaient été sauvés, encore une fois, et le navire, lui, coulait. Donc c'était une côte inhospitalière et où il ne faisait pas bon se balader quand les tempêtes étaient trop violentes. Enfin, mais là, il ne s'agit que d'un bâtiment beaucoup plus réduit. Quelques jours ou quelques semaines avant le général Chanzy, un petit brick français qui s'appelait le Martial avait lui aussi sombré sur la côte nord de Minorque. il n'y avait que sept personnes à bord, donc ce n'est pas de la même, de la même intensité. Mais sur les sept, il y en avait trois qui étaient morts. Et voilà les quatre survivants. Voyez qu'il y en a trois qui sont de toute évidence marins, et le quatrième était là sans doute pour des motifs commerciaux. Voilà donc le lieu où où s'est passée cette catastrophe. En quittant Marseille, le général Chanzy avait à son bord 157 personnes, 87 passagers, 70 membres d'équipage, je vous ai dit, et en même temps que ces passagers, il transportait 143 sacs de courrier. Attention, c'est pas la sacoche du facteur, hein, c'était d'énormes sacs de courrier entre Marseille et Alger. 183 tonnes de marchandises diverses, d'objets manufacturés, et 165 futs. On y reviendra à ces futs, parce qu'il y en a des gens qui étaient futés, qui ont dit c'est peut-être les futs qui ont explosé, sauf qu'ils étaient vides. Alors, parmi les membres de l'équipage, on comptait une forte majorité, évidemment, de marins inscrits maritimes à Marseille, pratiquement les trois quarts, mais sur l'ensemble des marins, la majorité était corse, soit originaire de l'île, soit natif de Marseille. Il y avait 49 Corses sur 70 personnes de l'équipage. C'est typique de l'histoire traditionnelle de Marseille, et là on peut mesurer, on n'a pas l'équivalent, enfin je n'ai pas trouvé la statistique équivalente au niveau des passagers, mais pour les membres d'équipage, on a la statistique de la tragédie humaine que ça représentait, puisque s'il y a eu 70 morts, il y a eu 43 veuves et 172 orphelins. Donc il y avait évidemment les retombées, hein, non seulement de ceux qui ont disparu, mais de tous ceux qui ont eu à en souffrir. Quant au nombre des passagers, eh bien, on n'est pas surpris de retrouver parmi ces passagers des groupes qui étaient traditionnellement présents sur la ligne Marseille-Alger. Alors, pas mal de militaires, des militaires qui regagnaient leur poste, qui avaient leur famille en métropole, plusieurs lieutenants, un capitaine, des soldats qui rentraient à Alger, un lieutenant qui s'appelait Femelio, qui était caserné à Aix, j'en parle. Alors, ah ben voilà déjà, avant de parler du lieutenant Femelio, j'ai oublié, voilà les portraits, encore une carte postale qui avait été éditée, qui représente un certain nombre de membres de l'équipage. Et vous retrouvez la fameuse bouée que j'avais en début de conférence et qui était présentée à l'exposition qui a été récupérée après le naufrage. Donc, probablement, un certain nombre de ces pauvres bougres, sinon tous, ont fait partie de ceux qui ont péri avec l'équipage du Chanzy. Vous voyez qu'il y en avait qui étaient très jeunes, évidemment. Il y avait des mousses, des mécaniciens, des gens de toutes sortes. Alors, voilà le lieutenant Femelio. D'après la photo de la presse, et on voit très bien que c'est une photo de presse d'époque, évidemment, et si j'en parle, parce que il représentait quand même parmi les passagers quelqu'un d'assez huppé. Son beau-père était l'intendant général d'Alger, et donc il regagnait son poste avec sa femme et deux de ses enfants. On a même le portrait de sa famille, et là il y a trois enfants, mais il y en a deux des trois qui ont disparu dans la catastrophe, ainsi que la femme et le lieutenant Femelio. En dehors des militaires, des fonctionnaires, évidemment aussi, qui regagnaient leur poste, là aussi, à Alger, ou dans les abois en Algérie, en tout cas, entre autres, plusieurs commis des douanes, dont le survivant, le rescapé, qui s'appelait Marcel Baudès. C'était son premier poste, il venait d'entrer dans les douanes, il venait d'être nommé commis des douanes, et il regagnait Alger. Voilà donc Baudès dans la presse au moment de sa disparition, de la disparition du bateau, mais lui de sa survie. Alors en dehors de ça, il y avait un abbé, un notaire, c'est un peu une liste à la Prévert, hein, un abbé, un notaire, un consul d'Espagne à Oran, qui s'appelait Monsieur Sens de Tejada, plusieurs agents du PLM, un administrateur de la compagnie Cyprien Fabre, qui a dû se dire « j'ai mal fait de prendre le bateau de la compagnie » concurrentes, des voyageurs de commerce, des étrangers aussi, soit liés à, là aussi par le travail à l'Algérie, soit déjà liés par le tourisme, des Danois, des Allemands, des faut-il dire allemand, des Français, des Alsaciens, mais qui étaient à cette époque-là évidemment devenus allemands, des Italiens, des Anglais, donc toute une clientèle qu'on retrouve à travers les listes des disparus. Et puis, évidemment, ces fameux 11 artistes de différentes nationalités qui devaient se produire au casino ou au Kursaal d'Alger, selon une tradition qui était bien établie dans les milieux du spectacle, qui profitait de la colonisation pour que les artistes rayonnent des deux côtés de la Méditerranée. Et là encore, Marseille a été bien placée, et en particulier, vous le verrez, le souvenir de l'Alcazar, c'est-à-dire que ces artistes de café-concert, ces équilibristes, ces prestidigitateurs, ces jongleurs, ces trapézistes, etc., tous ces gens-là allaient faire des tournées qui se passaient de l'autre côté de la Méditerranée, sur l'Algérie, et donc étaient très connus du public marseillais, d'où l'insistance de la presse, à défaut de parler de la vie intime du voyageur lambda, l'insistance de la presse de l'époque pour raconter leur aventure. Il y a un côté un petit peu presse people, ou avant presse people déjà, qui s'est formé à l'occasion de la tragédie. Donc, dès les premiers jours de la catastrophe, la presse a mis en exergue ces artistes. En voilà quelques-uns ici, les artistes victimes de la catastrophe. Vous voyez bien des profils de têtes d'époque, nous y reviendrons tout à l'heure. Voilà, alors là, il y a Dufort, il y a un duo qui était connu, Madame Lafargue, etc. Je vous en reparlerai dans un instant. Voilà encore trois autres, dont un comique troupier, qui d'ailleurs a l'air d'être âgé comme ça, alors qu'il est porté sur la liste des disparus à l'âge de 28 ans. Je ne sais pas s'il s'était maquillé, mais en fait, là, il a l'âge, une tête plus marquée que cet âge-là. Donc, voilà, accompagnant ces visages, les articles qui racontaient la vie ou les derniers moments de ces artistes. On a même publié une carte postale. Alors, je ne sais pas si elle a été répandue pour en tirer des secours, mais en tout cas, voilà la carte postale où on trouvait souvenir des artistes victimes de la catastrophe, 9-10 février 1910. Vous voyez les répercussions médiatiques, en quelque sorte, que ça a pu avoir. Alors, quelques mots, je vais passer assez rapidement, mais ça vaut quand même le coup d'en parler, justement, ne serait-ce que pour montrer l'exploitation par la presse de la catastrophe. Voilà quelques mots sur les principaux de ces artistes. Le chanteur réaliste Francis Dufort. Tiens, il ne veut pas venir. Le voilà. Avec une mèche napoléonienne, c'était un artiste de réputation nationale. Hein. Il avait 47 ans, il s'était produit à différentes reprises, non seulement à l'Alcazar, mais aux variétés, sur les différentes scènes marseillaises. Il habitait dans la région parisienne, et d'ailleurs, en son absence, sa villa dans la région parisienne a été sinistrée par les crues de la Seine, car la catastrophe du général Chanzy est arrivée très peu de temps après les énormes crues de 1910 qui ont ravagé la région parisienne. Et donc la presse a sauté d'une tragédie à l'autre, en quelque sorte, après s'être largement étendue sur les sinistrés des inondations de Paris, elle a repris sur les artistes du général Chanzy. Et donc il s'était embarqué à Marseille en compagnie d'une chanteuse à diction du nom d'Élise Henry. Je crois qu'elle y était aussi sur la carte postale. C'est celle qui a le grand chapeau de ce côté-là, du côté à votre gauche. Et donc, cette Élise Henry avait 28 ans. Il y a un petit mystère parce qu'elle rentrait d'une tournée d'Amérique. Et sur le moment, on a annoncé que c'est Madame Dufort qui était décédée. Alors, Madame Dufort, qui était aussi artiste, était restée à Marseille. Et donc, c'est sous le nom de Madame Dufort que cet autre artiste a été porté disparu. Et en fait, les artistes qui étaient présents à Marseille à l'époque, il y avait Rému, qui était déjà connu à l'époque. Il y avait un chanteur qui s'appelait Jean Flore, il y avait un tyrolien qui s'appelait Bergeret. Enfin, c'était des gens très connus. Ils sont allés en délégation annoncer à la veuve que d'abord, il y avait son nom sur le journal, mais que c'était son mari qui était disparu, et non pas elle, bien entendu, elle l'aurait su avant les autres. Alors, il y avait également, il y avait un duo de jongleurs qui étaient américains. On voit d'ailleurs, ça permet de voir la richesse des spectacles de l'époque, hein, de ces spectacles de music-hall ou des vedettes internationales passées par Marseille, bien entendu. C'était des gens qui avaient une trentaine d'années, Derenda et Green. Vous les voyez ici, avec l'un a un chapeau bien américain, on dirait presque Dallas, son univers impitoyable. Donc, ils ne venaient pas de Dallas, ils venaient de San Francisco. Mais ils étaient déjà venus plusieurs fois à Marseille et ils venaient de faire 15 jours à l'Alcazar avant leur départ pour Alger. C'était des jongleurs, ils jonglaient avec des massues, vous me direz, on connaît ces numéros depuis, mais sous une forme comique, ils faisaient des acrobaties, ils jonglaient aussi avec des assiettes, je ne sais pas si c'était au bout des bâtons, puisque c'est des Américains et ce n'est pas des Chinois, ils jonglaient avec des boules et... en fait, ils auraient dû partir la veille. Et puis, il se trouve que l'un des deux, Léo Derenda, avait voulu prolonger son séjour à Marseille parce qu'il avait fait une agréable rencontre. Il a dit, au lieu de partir ce jour, je partirai le lendemain. Il est parti avec son acolyte et il a disparu. Et d'où le titre accrocheur de la presse, on retrouve là encore le côté people. Lorsqu'on a raconté son aventure, la presse a titré « Une femme fut fatale au Derenda Green ». Alors, deux autres dont je n'ai pas la photo, c'était des baristes, donc c'était des acrobates qui s'appelaient les Stakeli. Ceux-là, ils étaient belges et ils ne s'étaient jamais produits à Marseille, mais ils reprenaient leurs exercices en Algérie après avoir eu un accident. Il y avait un contorsionniste qui s'appelait Nestor. On l'appelait l'homme qui se dévisse la tête ou l'homme qui marche à l'envers. 28 ans, né à Paris. Il demeurait avec sa mère, sa vieille mère âgée, dont il était le seul soutien. On voit là encore l'art d'exploiter, évidemment, la tragédie. Il était passé au Palais de Cristal, il était passé aussi à la place Saint-Michel, dans le Cirque Egelton. Vous savez qu'il y avait la grande foire de Marseille qui se situait, la foire Saint-Lazare se situait sur la place Saint-Michel toutes les années, et il y avait en particulier comme attraction, on montait chaque fois un grand chapiteau de cirque, et donc ça venait s'ajouter aux exercices traditionnels des cafés-concerts. Enfin, le fameux comique troupier Jeannot, dit le hussard smarteux. Alors smarteux, c'est une adaptation belle époque de smart, c'est-à-dire hussard élégant. J'ai pas trop vu ce qu'il avait d'élégant tout à l'heure, j'y reviendrai pas, mais en fait, c'est un autre problème. Et donc lui, il était déjà passé à l'Alcazar, c'était un excellent nageur, ça l'a pas empêché de périr, tellement qu'il s'était spécialisé pour le cinéma muet, et depuis des années, il faisait des films comiques où il faisait des plongeons, il faisait le nageur, il faisait tout un tas d'exercices, ce qui l'a pas empêché de disparaître. Il avait signé un contrat pour Alger, et il avait failli amener toute sa famille avec lui, et puis au dernier moment, son petit garçon avait une peur panique de la tempête et des gros bateaux, et donc il était parti seul, ce qui fait que sa famille a été sauvée. Le couple des Jolies Vélias, les voilà, les Jolies Vélias, c'était des duettistes qui étaient à la fois danseurs, mais danseurs excentriques, danseurs contorsionnistes. En fait, un nom bien marseillais, Monsieur Joly s'appelait en fait Monsieur Molinari, et sa femme s'appelait Vélia. Et donc eux aussi étaient passés dans les music halls marseillais et étaient très connus dans la ville. Là encore, ils ont disparu par malchance parce que lorsqu'il avait fallu s'embarquer, Madame Jolie Vélia, elle aussi, avait dit « il fait trop mauvais temps, il ne faut pas prendre le bateau ». Et puis ils se sont embarqués quand même parce que leur bagage était déjà et leur costume de scène était déjà à bord du bateau. Alors ils ont dit ben on va suivre les bagages et on va suivre les costumes, et du coup ils se sont retrouvés pris dans la tempête. Voilà donc raconté par la presse un petit peu les mésaventures ciblées de ces artistes. En voilà encore une, Marcel Lafar. C'était l'une des plus connues à Marseille, celle-là. Elle et son mari. Son mari, qui s'appelait Marius Fass, dit Sauveur, était compositeur et pianiste de cinéma muet. Là encore, ça raconte les histoires de l'époque. Hein. Dans les cinémas, il y avait un certain nombre de cinémas muets où il y avait de véritables orchestres, jusqu'à 15 musiciens. Ça, c'était les grands cinémas du centre-ville. Et puis les autres cinémas, on se contentait d'un piano. Et quand on n'avait pas un piano, même parfois, il y en a qui jouaient à la flûte ou qui jouaient du violon, c'était plus facile à transporter. Et donc, son mari était pianiste de cinéma à la rue de Rome, à l'Alhambra Cinéma. Et au dernier moment, il a renoncé à la suivre, il est resté au domicile marseillais, et, ainsi que sa petite fille qui était âgée de 10 mois. Or, il a été tellement marqué par la disparition de sa femme qu'il n'a pas repris son service au cinéma. Et donc, au bout de 5 ou 6 jours seulement, il a reçu une lettre de son directeur. « Pouvez-vous reprendre votre service demain ou dois-je vous considérer comme démissionnaire ?» Il demanda un nouveau sursis, on le lui refusa, il a été démissionné par force. Comme quoi, la bonté de cœur, comme verra tout à l'heure, n'était pas universelle, même dans les milieux du spectacle. Voilà donc pour ces artistes qui ont fait la une de la presse marseillaise à la suite de la catastrophe. J'ajoute qu'on a retrouvé la même émotion à Alger, d'abord vis-à-vis de la catastrophe en général et du naufrage, mais aussi vis-à-vis de ces artistes, puisqu'ils étaient déjà annoncés. Ils étaient déjà à l'affiche. Alors la photo est mauvaise parce que c'est une photo de presse, mais voilà l'affiche du casino d'Alger au moment de l'accident. Vous voyez Dufort, Derenda, Ingrid, Jeannot, Nestor, etc. Toute l'équipe en question qui a disparu, qui était attendue à Alger et qui était déjà à l'affiche. Alors maintenant, après ces premières réactions, comment se sont passées les recherches en mer vis-à-vis des disparus et quelles ont été les interrogations sur ce qui avait pu causer une telle tragédie. Bien entendu, les pouvoirs publics, mais aussi la Compagnie Générale Transatlantique, ont envoyé des observateurs sur place tout de suite. Dès le 12 ou 13 février, le vapeur Calvados est parti pour Ciudadela, qui était la ville la plus proche, je vous ai parlé de Ciudadela tout à l'heure, dans l'espoir de sauver ce qui pouvait encore l'être, pas les gens, puisqu'on savait qu'ils avaient disparu, mais éventuellement, peut-être, des restes du bateau, et d'enquêter sur les circonstances de la tragédie. On a envoyé aussi 5 contre-torpilleurs, donc la marine de guerre s'est mobilisée, ils sont partis de Toulon, là encore, pour aider aux recherches. L'Espagne, également, par l'intermédiaire du gouverneur des Baléares, a réquisitionné 2 vapeurs, le Balear et le Vicente Sanz. Et ce dernier, qui s'est retrouvé le premier sur les lieux, en même temps que les torpilleurs français, a été obligé de constater qu'il était impossible de s'approcher, même plusieurs jours après, de s'approcher de la côte, tellement la tempête continuait. Et c'est resté comme ça, inabordable pendant plusieurs jours, ce qui explique encore plus facilement la quasi-totale disparition des naufragés. Ceux qui ont pu approcher finalement de la terre, découvrir une grande quantité de débris de bateaux flottant sur la mer, complètement en miettes, une série de corps en miettes aussi, horriblement mutilés. La presse de l'époque parle d'une purée de cadavres. Voilà, enjolivé, si on peut dire, l'une des imageries parues dans la presse de l'époque, où on est censé repêcher des corps. Sur les 156, de toute façon, on n'en a repêché qu'une vingtaine. Donc, les autres, on n'a même pas trouver des morceaux. Et on voit, c'est idéalisé, mais on voit quand même que les rochers, c'est pas tout à fait faux, la façon dont c'est présenté. Et donc, tout ce qui était récupéré était ramené à Ciudadela pendant que les églises sonnaient le glas à longueur de temps. Et on a enterré les premiers restes repêchés après le service funèbre à la cathédrale pour eux. Et en même temps, d'ailleurs, les 3 marins du Martial, le petit brick, qui avait disparu quelque temps avant. Mais en dehors de cette pêche donc très, très difficile à réaliser, on s'est bien entendu préoccupé d'élucider les circonstances du naufrage et d'obtenir des témoignages. Des témoignages des gens de la côte, bien, personne n'était là au moment de la tempête, bien entendu. Et le seul témoignage, c'était le témoignage de l'unique survivant, Marcel Baudès. Le voilà ici. Après, là c'est une photographie, après l'accident, vous voyez que l'homme, on voit qu'il est assez costaud, heureusement pour lui. Lui aussi c'était un nageur émérite. Il avait 23 ans, c'était un commis des douanes, il était originaire d'Épinal, mais il résidait au Havre. Et il rejoignait, je vous l'ai dit, pour la première fois, donc son poste de commis des douanes en Algérie. Les premières déclarations qu'il a faites n'étaient pas très claires, il était encore sous le choc. On disait, même sans exagération, qu'il était devenu fou. Il n'est pas devenu fou du tout. Je vous en dirai deux mots plus tard. En tout cas, voilà le récit qu'il a fait. Il avait été brusquement réveillé au petit matin du 10 février vers 5 heures du matin par une terrible secousse et un bruit épouvantable. Il était monté en toute hâte vers l'arrière du bateau, juste à temps pour voir l'avant du navire disparaître, brisé sur les rochers, se dissocier de l'arrière, s'abîmer dans les flots, et en 3 ou 4 minutes, l'arrière aussi avait disparu, avec passagers et équipage. Lui-même ne savait pas trop, sans doute, exactement ce qui s'était passé. Voilà encore les falaises sur lesquelles s'est fracassé le bateau. Vous voyez à nouveau encore le phare au lointain. Il savait vaguement ce qui lui était arrivé. D'après la presse de l'époque, il s'était accroché une pièce de bois, il avait été expédié inconscient sur un banc de rochers, et après avoir repris ses esprits, il avait pu s'abriter de la tempête dans une grotte qui était à la base de la falaise, et cette grotte était à demi inondée, mais ça a suffi pour lui permettre de survivre. Alors voilà le dessin qui est paru dans la presse de l'époque, bien entendu un petit peu romancé, mais vous voyez à quel point tout a été haché en menu débris. Sur le côté, le rescapé qui a pu se mettre plus ou moins à l'abri pendant 24 heures. Voilà ici la fameuse grotte prise sur le réel, c'est la partie la plus sombre après la partie ensoleillée. Et vous voyez que là, le jour où a été prise la photo, il ne risquait pas d'y avoir une tempête aussi forte que celle qui a provoqué la catastrophe du bateau, mais que c'était quand même pas mal agité. Et donc, c'est vraiment miraculeux, quelque part, malgré ses talents de nageur, qu'il ait pu atteindre cette grotte et qu'il ait pu ainsi survivre. Voilà encore une interprétation romancée du petit journal, où on dirait, je ne sais pas, Robinson Crusoe ou Edmond Dantès s'échappant du château d'If, je ne sais pas. Enfin, il y a un côté mélodramatique, mais qui finalement n'est probablement pas exagéré par rapport à ce qui s'est passé, puisque d'après ses dires, Baudès avait mis 24 heures à se remettre de son naufrage, avait réussi à escalader cette falaise, ce qui est un exploit sportif. On se demande comment il a fait quand on est sur place. On ne voit même pas l'endroit où il a pu avoir prise, surtout en loc, sans habit pratiquement, les pieds nus, etc. Donc il est parvenu à escalader la falaise, à rejoindre une ferme isolée à travers ce paysage-là. Voilà les chancrures de la fameuse baie, et vous voyez, il a dû parcourir comme ça, peut-être un kilomètre ou 1500 mètres, sous le choc du naufrage, après avoir escaladé la falaise, au milieu des pierres et des rochers, et il est arrivé de nuit à une ferme qui était complètement isolée dans ce paysage lunaire, on pourrait dire, et il a frappé, on lui a ouvert, il a dit c'est moi le naufragé, mais bon, il a été sauvé. Comme Baudès parlait de grands bruits, et en particulier de sifflements. On pensait que c'était les chaudières du général Chanzy qui avaient explosé. L'épave reposait en plusieurs morceaux à près de 20 mètres de fond, ce qui était facilement accessible pour les scaphandriers de l'époque, ce qui fait que la compagnie générale transatlantique a envoyé, a délégué non seulement un bateau, mais également des scaphandriers qui sont descendus, qui sont allés voir ce qui se passait. Et donc, quand ils sont revenus à la surface, ils ont constaté que les chaudières étaient intactes, donc ce n'était pas la faute des armateurs, j'allais dire, qui était en cause. C'était pas une imperfection matérielle ou technique qui s'était passée, mais c'est simplement un pur naufrage. Les gens ne voulaient pas y croire, parce qu'ils ont dit un tel bruit et le matériel dans un tel état, réduit en bois d'allumette, il a dû se passer une explosion. Et on a mis en cause les fameux 165 futs qui étaient cités dans la cargaison, et comme je vous ai dit, la compagnie a attesté qu'ils étaient vides, qu'il n'y avait pas de poudre à bord, et que non seulement ce n'est pas les chaudières qui avaient explosé, mais qu'il n'y avait pas eu d'explosifs sur le bateau. Donc, la violence du choc et les coups de boutoir de la tempête expliquaient à eux seuls l'étendue des désastres et l'état dans lequel on avait retrouvé le matériel et le corps. Alors, à partir de là, on a publié dans la presse toute une série de cartes plus ou moins à droite ou maladroites. Vous voyez ici les Baléares avec l'île de Majorque qui est la plus grande, l'île de Minorque comme son nom l'indique qui est la plus petite, plus à l'est. Et ce qui s'est passé évidemment, c'est que le bateau venant du nord, venant de Marseille à Alger, a voulu passer entre Majorque et Minorque. Et la croix est mal placée sur ce croquis, puisqu'en fait, l'accident s'est passé sur la côte, nord-ouest. Vous voyez, Soudanelle, c'est la ville qui est à quelques kilomètres de là. L'accident s'est passé par ici. Il a manqué, en quelque sorte, le chenal entre les deux îles. Et évidemment, on ne pouvait pas en donner la responsabilité directe au capitaine, puisque ça faisait plus de 10 ans qu'il faisait la route, mais aux conditions de navigation qui étaient elles-mêmes catastrophiques. Et il s'est passé sans doute quelque chose de particulier que les marins n'avaient pas l'habitude de rencontrer. C'est-à-dire qu'habituellement, habituellement, ils ne passaient pas entre les deux îles. Habituellement, ils passaient à l'est de Minorque. Ils laissaient les îles sur leur droite et ils continuaient leur route. Mais il leur arrivait aussi, de temps en temps, de passer au milieu pour se mettre un petit peu à l'abri, en quelque sorte. Et en principe, il y avait un courant marin qui les entraînait vers l'ouest. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'entrée du chenal entre les deux îles, ils avaient l'habitude que leur bateau soit déporté vers l'ouest par les courants marins. Or, il s'est trouvé qu'avec cette tempête-là, et dans les conditions où a eu lieu la tempête, il y a eu un contre-courant. Au lieu d'être un courant ouest, c'est un courant est qui s'est produit. Et donc, les manœuvres pour échapper au courant ouest, et donc tirer plus près de la côte de Minorque, ont été contrariés par le contre-courant et ont aggravé au contraire le déplacement du bateau qui, au lieu d'attraper le chenal, est allé s'enfoncer sur les rochers de Minorque. Ce n'est pas une faute de navigation du capitaine lui-même parce que pendant la nuit et pendant les conditions de la tempête, évidemment, il ne pouvait pas prévoir que les conditions géographiques et météorologiques de la chose avaient inversé le sens habituel des courants. Alors voilà donc ce qu'on en a pensé, pour ajouter encore à la non-responsabilité du capitaine Cayolle, certains se demandent aujourd'hui, voilà encore des dessins, alors la fameuse grotte dans laquelle Baudès a été retrouvé, elle est par ici, là, hein, les falaises que vous avez vues, c'est celle-là. On appelait ça déjà le trou de la mort, avant l'accident. Donc ça veut dire qu'il y en avait eu d'autres. Voilà la ville de Ciudadela, où on a fait la commémoration, qui est à quelques kilomètres du lieu en question. voilà encore les croquis, tout ça passait dans la presse, hein, où on expliquait, où on essayait de recomposer un petit peu ce qu'il avait pu se passer, mais comme il n'y avait qu'un témoin plus ou moins assommé, on n'en savait pas plus. Et voilà la route traditionnelle, la route ordinaire, qui évitait donc à la fois Majorque et Minorque. Voilà la route que voulait prendre Caillol, et voilà la route à cause du courant qui a déporté le bateau, voilà la route qu'il a prise. Et du coup, au lieu d'attraper le chenal, il s'est approfondi, comme on dit à Marseille, sur l'île de Minorque, ici, et le phare qui n'éclairait pas assez, ça c'est une autre raison. Quand on s'est penché sur l'accident, on a dit en plus de ça, c'était en pleine nuit, c'était en pleine tempête, et le phare de notoriété publique était un phare qu'on ne voyait qu'au dernier moment et qui éclairait très peu. Alors c'est tout ça qui a provoqué l'accident. Il y avait d'autres questions qui étaient peut-être remises en cause et qui étaient peut-être d'ordre plus commercial. C'est qu'on pense qu'en fait, pour se mettre à l'abri, comme c'était l'habitude, Caillol s'était rapproché des côtes d'Espagne, avait perdu du temps en quelque sorte pour éviter de traverser en pleine tempête. Et que c'est pour regagner ce temps-là, pas simplement pour être un petit peu à l'abri entre les deux îles, mais surtout pour gagner du temps, qu'au lieu de, comme il s'était rapproché de cette côte-là, au lieu de prendre la voie ordinaire, il a voulu aller plus vite et rattraper 10 minutes ou un quart d'heure en prenant le passage entre les deux îles. Résultat, on a vu ce que ça donnait. Alors, voilà toutes les questions, et qui ne sont pas plus résolues que ça d'ailleurs, qu'on s'est posées à l'époque. Bon, maintenant qu'on a présenté le bateau, l'accident, les gens qui avaient dessus, il faut faire une place à la générosité publique qui s'est manifestée, toutes les manifestations qui ont eu lieu pour venir au secours, non pas de ceux qui étaient morts déjà, mais des familles survivantes. Et là encore, la presse marseillaise va jouer un rôle important, ainsi que les associations, privées, hein, qui ont pris en charge, nombreuses ont été les associations qui ont pris en charge l'organisation de ce groupe.
La bibliothèque est en présence d'un francelier. Les personnes ayant des documents à faire enregistrer.
Nous, on n'est pas compté dans les 30 minutes. Hein, et pas, ceci dit, on essaiera d'échouer le plus vite possible. Donc, il y a d'abord eu des salles de spectacle. Il y a eu des spectacles en faveur des sinistrés à l'opéra. On l'appelait le Grand Théâtre, soirée de bienfaisance, avec les chanteurs, l'orchestre, les chanteurs de l'opéra. Mais du coup, ils ont invité aussi les chanteurs du café-concert, les chanteurs de l'Alcazar sont venus sur la scène de l'opéra, tous en famille, en quelque sorte, pour faire une famille du spectacle, au secours de la bienfaisance. Parmi les gens qui ont participé à ce spectacle, il y a eu Dranem. Je ne sais pas si vous connaissez Dranem. Dranem était un comique un petit peu excentrique de l'époque, était une des plus grandes vedettes de l'époque. Il était de passage à Marseille à cette époque-là, et donc il a milité évidemment pour la bienfaisance en faveur des familles du général Chanzy. Il a même milité à tel point que quelque temps après, Dranem, qui avait un cœur d'or, a créé la même année la maison des artistes, des vieux artistes à Ris-Orangis. Et donc lorsqu'il a créé cette maison pour les artistes, qui existe toujours, qui est une maison de retraite pour les vieux artistes, il a fait bâtir une stèle à la mémoire des victimes du Chanzy. Des artistes victimes du Chanzy. Donc il y avait Dranem, il y avait Bergeret, il y avait une troupe de pantomimes, il ne faut pas oublier que la pantomime était très importante à l'époque, des chanteurs d'opéra, etc. Et la soirée, si ça vous intéresse, rapporta 1600 francs pour les rescapés du, enfin, pour les familles des victimes du Chazi. On a organisé la quête dans la salle, en plus du droit d'entrée, etc. Le Grand Théâtre a fait une manifestation aussi, devait faire une manifestation pour l'Union scolaire des Bouches-du-Rhône. Alors au lieu de manifester pour l'Union scolaire des Bouches-du-Rhône, eh bien on a mis la somme encaissée à disposition des gens du Chazi. On a mis des plateaux pour faire la quête à l'entrée des variétés. Les variétés qui étaient à l'époque variétés casino, c'est-à-dire c'était un music hall. C'était pas un théâtre ni un cinéma, c'était un music hall. Il y a eu les comités d'intérêt de quartier. Ça s'appelait pas encore les CIQ, je transpose de nos jours, mais qui se sont mis à récolter eux aussi des secours. La Joliette, les Carmes, Sadi Carnot, l'Évêché. Et donc, ils ont fait aussi des quêtes et des dons. Il y a eu le Palais de Cristal. Le Palais de Cristal qui est maintenant occupé par la faculté sur la Canebière, qui a été longtemps occupé par le cinéma Pathé sur les allées de Meillat. Si vous voyez où se trouvait, qui était le rival principal d'Alcaza, qui a fait lui aussi des représentations en faveur des sinistrés du Chazi. On a fait une revue, on a fait des musiques militaires, etc. Donc j'en passe des meilleurs. Partout, il y a eu des bals et des concerts musicaux accompagnés de quêtes pour récolter en faveur des familles. Alors, c'était à qui se mobiliserait le plus ? Société philanthropique corse, c'est naturel, étant donné le grand nombre de Corses qui avaient disparu. Bal paré, bal masqué, bal travesti, ce qui veut dire aussi d'ailleurs que ça autorisait, sous prétexte de charité, à s'amuser sur le compte de quelque chose qui avait été tragique. Mais du moment que ça rapportait de l'argent, c'était le but de l'opération. Et alors, je vous cite comme ça quelques noms des cercles qui se sont organisés. Le cercle mondain l'Oriental, c'est plus ce que ça représente. Le Bijou Club, les Petits Turcos, l'Étoile du Midi, le comité des magasiniers, le groupe des philosophes, je ne sais pas qui c'était ces philosophes-là, le Grand Cercle de la Démocratie, le Grand Concert de Charité, également la Fédération républicaine de la première circonscription, la jeunesse laïque du 5e canton. On verra tout à l'heure qu'évidemment les paroisses et les religieux se sont aussi investis dans la chose. Les syndicats ouvriers, les comités d'intérêt de quartier, j'en ai déjà parlé. Même la société mixte de tir, la société mixte de tir de Marseille, elle était au Château des Fleurs à l'époque. C'était une société bourgeoise très chic. Et donc, eh bien, ils ont décidé d'affecter aux familles le bénéfice du concours annuel de tir. Les gens cotisaient pour avoir le droit de participer au concours. Le revenu du concours, le bénéfice du concours a été mis à disposition. Voilà. Bien sûr, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, 10 000 francs à disposition du préfet. La municipalité de Marseille, 5 000 francs. Les dons sont venus des mairies du département, du conseil municipal de Toulon, de celui de Hendaye. Donc vous voyez que c'est allé assez loin, sans qu'on sache exactement quelle était l'implication de ces gens-là, du conseil général des Basses-Alpes, des particuliers de toute la France. Alors on le sait parce que les journaux ont publié les listes, ont lancé les souscriptions, et ont publié les listes de souscriptions et le montant de chaque souscripteur. Et dans ces listes, il y a des choses émouvantes parce que vous avez des listes où les montants sont ridiculement faibles, 25 centimes ou 50 centimes. Et on sent que c'est le don de gens tout à fait humbles et qui parfois même, ça fait penser au disque des auditeurs, vous savez, qui font ajouter à leur nom en souvenir de mon petit frère, non pas un qui est perdu dans la chose, ou à l'occasion de mon mariage, ou pour mes fiançailles. Donc, ils éprouvent le besoin de faire un don à ce moment-là. Et puis, des dons beaucoup plus conséquents qui pouvaient aller à des centaines de francs. Et donc, les grands négociants de l'époque, évidemment, ont participé aussi à la chose. Les secours ont été, non seulement tout cet argent qui a été ramassé a été redistribué, mais il y a eu aussi des secours d'urgence aux familles de l'équipage, évidemment, donc de la part des escrimes maritimes. Il y avait une loi, hein, paiement de secours d'urgence réglementaire pour les familles des marins, soit 600 francs ou 300 francs selon le grade des inscrits maritimes, et puis une somme de 100 francs supplémentaires versée pour tout enfant de moins de 16 ans. Donc, il y a eu toute une série de manifestations. La Société des secours des familles des marins français naufragés, 20 000 francs à se partager entre les familles et des victimes. Donc ils n'ont pas été abandonnés. Quand je vous disais tout à l'heure les donateurs modestes et les donateurs beaucoup plus riches, l'un des records a été tenu par Périclès Zarifi, qui était l'un des négociants les plus célèbres de l'époque, d'origine grecque, qui a fait un don de 1000 francs sur sa cassette personnelle à destination des victimes. Et évidemment, tout ça a été très bien organisé, comptabilisé, il y avait un comité de secours qui a été organisé, etc. Donc voilà pour la charité et la bienfaisance. Reste le deuil et les hommages publics qui ont été réservés aux familles et aux victimes. Alors, il y a eu évidemment des manifestations corps absent, puisque la plupart, on n'avait pas pu les repêcher à Ciudadel, en Corse, à Bastia. Il y a eu plusieurs services funèbres à Lurie, à l'église Saint-Jean de Bastia. Il y a eu un envoi de secours, d'ailleurs, par le conseil municipal de Bastia, à Alger, à Toulon, et bien sûr, à Marseille. Et à Marseille, on a fait des cérémonies dans diverses églises. Il y en a une à Saint-Laurent, c'est pas étonnant, puisque c'était la paroisse des gens de mer. Le 21 février, c'est-à-dire une dizaine de jours après l'accident, le même jour, il y a eu un service funèbre à la cathédrale de Marseille, en présence d'une foule immense. Tout le monde n'avait sans doute pas pu y rentrer. Voilà une image de la presse de l'époque. À la sortie ou à l'entrée, on disait dans la presse qu'il y avait eu jusqu'à 12 000 personnes qui s'étaient pressées pour le service religieux. Service religieux qui avait été commandé par la Compagnie Générale Transatlantique au nom des familles mais des victimes. Et donc à ce service-là, il y avait tout le Marseille important qui était représenté, politique, maritime, commercial, industriel, et les dirigeants bien entendu, de la Transat, il y avait le président de la Chambre de commerce, le président du tribunal de commerce, il y avait l'ancien maire Amable Chanot, le maire en charge, parce que le maire en charge était laïque et ne voulait pas mêler la présence du maire à une cérémonie, catholique. Et évidemment des cérémonies dont on a perdu un petit peu le souvenir, mais avec les femmes en grand deuil, hein, toute une nuée de femmes voilées avec les habits noirs, les habits de deuil. Et lorsque la messe a été dite en présence de Mgr Fabre, évêque de Marseille, il a non seulement donné l'absoute devant le catafalque, mais il a annoncé qu'une quête serait faite quelques jours plus tard dans toutes les paroisses du diocèse. Donc, il y avait les associations laïques, les associations religieuses, les associations politiques, les associations philanthropiques. Tout le monde s'est mobilisé, évidemment, autour de l'accident. Je signale aussi, parce qu'on l'oublie trop souvent, qu'un samedi, le samedi 26 février, il y a eu un service funèbre réservé aux gens de mer, qui a été consacré aux disparus du général Chanzy. C'était un service systématique, c'est-à-dire que tous les derniers samedis du mois, il y avait un service funèbre à la mémoire des gens de mer qui étaient commémorés à Notre-Dame de la Garde. Et donc là, simplement, on a dédié celui-là spécialement aux disparus du Chanzy. Donc voilà pour les hommages publics et religieux, et voilà notre survivant, Marcel Baudès, photographié à Marseille, de passage à Marseille, après son équipée minorquaine et son passage par Barcelone. Bien sûr, les locks ont disparu, il est en chapeau melon, costume, cravate, etc. On ne voit pas ses pieds, ça serait intéressant parce que tout en étant rhabillé, pendant très longtemps, il a gardé les espadrilles vertes que lui avaient fournies les paysannes de Minorque, et donc il s'est retrouvé en costume de ville avec ses espadrilles de la catastrophe. Enfin, là, on ne le voit pas, c'est pas pour ça qu'ils ont coupé la photo. Hein. Alors, donc, Marcel Baudès voulait regagner la France, évidemment, et il a regagné la France par bateau jusqu'à Barcelone, mais ensuite, lorsqu'on lui a proposé de revenir jusqu'à Marseille par bateau, il a dit qu'il préférait revenir en train. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et donc, il a quitté Barcelone le 15 février, il est arrivé à Marseille le lendemain à 7h du matin, et là, il a passé une journée de vedette, en quelque sorte, puisque c'était... Et partout où il passait, évidemment, tout le monde, les journalistes de l'époque, il n'y avait pas encore la télévision, mais c'était exactement pareil, lui courait après pour l'interviewer, pour avoir le dernier mot de Marcel Baudès, etc. Et le 17 février, il faisait la une du Petit Marseillais, vous le voyez, dans son uniforme de chapeau melon. Longuement interviewé à Marseille, il a refait le récit de son extraordinaire équipé en y faisant quelques modifications, en disant, vous savez, j'étais peut-être pas encore tout à fait conscient à l'époque, mais c'est pas un miracle, en fait, je suis un très bon nageur, je me suis laissé emporter volontairement par une vague moins haute que les autres, je sais pas ce que ça pouvait être, étant donné la tempête, et aidé par le courant, j'ai été porté vers la côte, et je me suis méfié pour pas être aspiré par le tourbillon que procurait le navire en sombrant. Il avait aussi évité les pièges du ressac, enfin il avait tout fait, et il avait réussi à se trouver dans le fameux trou de la mort, où il avait mis 24 heures avant de retrouver ses forces. Là encore, on l'avait interrogé sur la responsabilité de l'accident, et il a expliqué que bel et bien, selon lui, les bruits qu'il avait entendus, les sifflements et les bruits qu'il avait entendus, n'étaient pas dus à une explosion, mais probablement au contact de la vapeur avec l'eau dans les tuyaux, ça avait fait siffler les tuyaux, donc c'était encore une façon de désengager la responsabilité de la compagnie et de tout reporter sur la question, évidemment, du naufrage. Donc on l'a transporté dans la ville, un petit peu partout, il a été reçu, alors vous voyez, là, ça y est, il a les chaussures, dans la même journée, vous le voyez au milieu, beau garçon, hein, un athlète de toute évidence, au milieu de ses autres camarades commis des douanes qui l'ont reçu, on a fait un repas à sa mémoire, etc., un apéritif à l'honneur, en son honneur, etc. Et ensuite il a regagné le Havre où était sa mère, et on n'a plus parlé de lui. À tel point que pendant le colloque de février 2010 auquel j'ai participé donc à Ciudadela, on n'en savait toujours pas plus sur qu'est-ce qu'était devenu le rescapé Baudès. Et là, il y avait toutes les versions possibles. Il y en avait qui disaient qu'il était mort moins d'un an plus tard, c'est-à-dire des suites prolongées du choc subi. D'autres au contraire disaient qu'il avait vécu plus de 90 ans. J'étais à ce colloque en compagnie d'un autre historien qui s'appelle Jean-Jacques Jordi, que vous connaissez peut-être, et donc Jean-Jacques Jordi, sitôt revenu à Marseille, a lancé des recherches généalogiques pour savoir à travers la France ce qu'était devenu Baudès, et il a retrouvé. Et alors, finalement, on sait désormais que Baudès était né dans les Vosges, qu'il a fait à la suite de son accident plus de 30 ans de carrière dans les douanes, qu'il a fini receveur principal, et pas n'importe où, à Philippeville en Algérie, en 1942, et qu'il avait la vie dure, puisqu'il est mort à Neufchâteau près d'Épinal, en 1972, à l'âge de 92 ans. Donc c'était quelqu'un véritablement qui était taillé pour faire une longue vie. On est bientôt en fin de parcours. Reste maintenant à parler des derniers moments vécus à Marseille par rapport à cet épisode du Chanzy, c'est-à-dire le rapatriement des victimes et les obsèques qui ont eu lieu à Marseille. des obsèques en forme d'obsèques nationales. Ça aussi, vous le verrez dans un instant, mais à Marseille, à cette époque-là, lorsqu'on faisait des obsèques publiques, c'était très napolitain, j'allais dire, c'est-à-dire, c'était un grand barnum avec arceaux de plumes, de cortèges, de voitures, de fleurs, de peuples, etc. Et c'est ce qui va se passer pour les obsèques des quelques individus dont les corps avaient été retrouvés et identifiés. Donc, rapatriement des corps. Très vite, les opérations, les autorités françaises ont demandé que soient rapatriés les corps des victimes du général Chanzy. Alors d'abord, les corps identifiés, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis on s'est heurté à la loi espagnole, selon laquelle, à l'époque, il fallait un délit de 5 ans pour que quelqu'un mort en Espagne puisse franchir la frontière et être transféré en France. Et finalement, il y a eu des négociations et Madrid a autorisé le transport des restes récupérés dans un cercueil de plomb de 2 mm en chêne avec 4 mm d'épaisseur. Et donc les rapatriements se sont faits déjà peu nombreux, mais se sont faits les uns après les autres, tous n'arriveront pas jusqu'à Marseille. Le premier qui a été rapatrié, c'était un certain Balondo, qui était un industriel parisien. J'ai pas pu aller plus loin, mais apparemment il était très connu, puisque c'est à la demande du ministre de la Marine qu'on l'a rapatrié avant les autres, et on l'a rapatrié par Marseille, ramené par le contre-torpilleur le carabinier jusqu'au Vieux-Port, où son cercueil a été reçu accompagné d'un drapeau tricolore. Donc on voit presque les obsèques nationales. On n'en a pas la photographie. La foule était nombreuse et il a été conduit ensuite à la gare à Saint-Charles et il est parti pour Paris. Puisqu'une vingtaine de cadavres avaient été repêchés et 11 avaient été seulement identifiés, d'autres sont repartis directement sur Alger par un autre bateau, bien entendu, puisque celui-là était en miettes. Et puis, quelques-uns, 8 ont été transférés pour Marseille. Voilà ici une photo de presse de l'époque du rapatriement du cercueil du capitaine Cayol, qui était un des seuls à avoir été récupéré, vous savez, récupéré et reconnu à cause de son uniforme. Très souvent, les gens étaient totalement méconnaissables, et c'est à cause de certains objets. On a reconnu aussi le médecin du bord, parce que le médecin du bord avait des insignes particulières, et donc, dans les lambeaux de vêtements qu'on a retrouvés, on a compris, d'après les signes, qu'il s'agissait du médecin du bord. Pour le capitaine, c'est pareil. Donc voilà l'arrivée du cercueil de Cayol à Marseille, toujours par les photographies du petit Marseillais. Et donc, ils sont arrivés et on les a installés dans une chapelle ardente sur les docks. Chapelle ardente, déjà supérieurement décorée, avec une statue de la Vierge des Marins, une croix dans la main droite, une ancre dans la gauche, des arbustes, des lampadaires, une garde d'honneur, le haut personnel de la Compagnie Générale Transatlantique, des écussons aux armes de la ville, des drapeaux tricolores, des tentures de velours noir, etc. Donc un grand tralala pour les accueillir, jusqu'au 12 mars, où vont avoir lieu les obsèques solennelles, qui ont été voulues d'ailleurs solennelles par le sous-secrétaire d'État à la Marine, qui s'appelait Chéron, qui était de Paris, et qui a dit « c'est une catastrophe nationale, il faut faire des obsèques monumentales aux corps qui ont pu être récupérés ». Et donc, il y a eu, au moment des obsèques, deux phases. Une première phase qui va être totalement laïque, là encore, ce qui permettait au maire de Marseille et de l'époque d'intervenir, etc. Et puis ensuite, une phase religieuse. Donc, Ambrésas de Chéron, donc venu de Paris, de Pierre Auroux, président du Conseil Général, d'Emmanuel Allard, c'est celui-là qui était maire de Marseille à l'époque, des autorités civiles et militaires, de Jules Charleroux, bien entendu, président de la compagnie, et puis une multitude d'associations qui avaient tenu à figurer dans le cortège avec leurs drapeaux, avec leurs insignes distinctifs. Alors évidemment, dans ces associations, il y avait toutes celles qui avaient un rapport avec la navigation maritime, la Fédération des capitaines au long cours, le syndicat des marins du commerce, le syndicat des maîtres d'hôtel, les garçons navigateurs, les dockers, les charretiers, celui des officiers mécaniciens de la marine marchande, les membres de l'Institut de sauvetage de la Méditerranée, etc. J'en passe des meilleurs. Mais il y avait à côté d'eux tout un tas d'autres associations qui voulaient simplement être présentes pour l'occasion et marquer leur présence, même si elles n'étaient pas liées à la mer. Il y avait l'amicale des officiers de réserve, les vétérans de la guerre de 70, les décorés médaillés français, une délégation de l'Union centrale des Corses et amis de la Corse, ça on comprend pourquoi, la société mutuelle italienne Unione Fratelliana, la société des héros du devoir, enfin, etc. Et finalement, alors qu'on avait rapatrié une dizaine de cercueils, eh bien, toutes les obsèques de Marseille ont concerné uniquement 6 cercueils, les autres ayant été déjà dispatchés en fonction des endroits où ils allaient être enterrés. Et voilà une vue quand même parlante de l'importance de ces obsèques. C'est ici le corbillard de Madame Crespel, une des deux femmes de chambre de l'équipage. Vous voyez évidemment que le cortège est accompagné d'un certain nombre de notabilités ou d'amis et connaissances, mais vous voyez la foule. Ça se passe sur la Canebière, ça. Hein. C'est à l'angle du Courbelzin, c'est de la Canebière, avec la maison devenue Monte Carlo maintenant. Enfin, qui n'est plus Monte Carlo, mais qui est la maison construite dans les années 1960 sur l'emplacement de la maison de Julie Pélisson. Oui. Donc, voilà une vue. Voilà une autre vue, là encore, qui est prise au débouché de la rue de la République sur le Vieux-Port. Vous voyez les gens agglutinés des deux côtés et l'importance en profondeur de ce que représente le cortège. Hein, tout ça pour simplement rendre honneur à 6 corps qui ont été rapatriés. C'est une photo très belle d'ailleurs qui a été publiée par une revue de l'époque. Je vous la signale parce qu'elle est exceptionnelle. C'est la revue Massilia. Et cette revue Massilia, entre 1908 et 1914, était une revue sur papier glacé avec de véritables photos. Vous voyez la différence de qualité qu'il y a entre les photos que je vous ai présentées pour la plupart, en dehors de celles qui avaient été faites pour mon épouse, bien entendu. Mais les photos de presse qui étaient très, très, très mauvaises en quelque sorte, et puis des photos de cette qualité-là. Voilà donc comment se sont terminées ces obsèques publiques. Après quoi, les derniers corbillards se sont arrêtés hors de la présence des autorités aux réformés, à l'église des réformés, et finalement, de toutes les victimes du Chanzy, il n'y a que 2 personnes qui ont abouti à Saint-Pierre, le capitaine Cayol, je ne sais pas si sa tombe existe encore, et la femme de chambre, Crespel, dont vous avez vu tout à l'heure le corbillard. Entre-temps, il y avait les autres cercueils étaient partis par train à la gare à Saint-Charles. C'est là qu'avait abouti d'ailleurs ce cortège qui venait de la Joliette, a pris la rue de la République, a pris le port, a remonté la Canebière, a remonté le boulevard d'Athènes, le boulevard et jusque à la gare à Saint-Charles. Et c'est à la gare à Saint-Charles qu'il y a eu les discours officiels avec le maire Allard, Jules Charleroux, le président de la Fédération des capitaines au long cours, Pierre Auroux, le président du Conseil général, etc. Voilà donc pour cet épisode tragique de l'histoire de Marseille. À travers la solennité exceptionnelle de cet hommage, il est clair que la cité phocéenne mais aussi Alger, la Corse, la France tout entière, avaient fait leur catastrophe qui frappait le monde de la mer, et notamment cette île de Minorque, encore porteuse aujourd'hui, peut-être contrairement à nous, du souvenir de cette tragédie désormais centenaire. Voilà ici à Ciudadela, dans le cimetière de Ciudadela, la stèle qui est consacrée aux disparus du général Chanzy. Voilà ici de façon pittoresque transcrit le croquis en quelque sorte du naufrage. Et voilà ici la croix qui était levée au-dessus de la falaise et qui a été l'objet d'une forme de pèlerinage pour tous ceux qui se sont associés au souvenir de ce centenaire du général Chanzy. Voilà, il y avait 200 personnes qui ont fait la marche à travers les rochers et les cailloux pour commémorer. Oui, les chaussures n'ont pas survécu. Ce qui montre encore en plus le carcan qu'avait dû suivre Baudès pour survivre à toute cette histoire. Voilà, je vous remercie de votre attention.